Elles ont mis des papas ou des mamans en prison.
Solidarité avec les sans-papiers.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests, osseux, sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF, un réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site RESF à la rubrique radio. Alors pour y aller, c'est très simple, soit vous faites http://resf.info/radio, soit vous vous arrêtez à resf.info, vous en profitez pour vous balader sur le site, glaner toutes les informations que vous pouvez glaner, sans oublier de passer par la rubrique pétition et toutes les signer, et vous trouverez donc la rubrique radio sur la colonne de gauche, un peu plus bas. Donc vous ouvrez la rubrique radio, émission, et vous trouverez sur cette émission, mais ça, il faudra attendre quelque chose comme samedi, parce que, enfin, le temps de la mettre en ligne. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire, hein, on aime bien recevoir du courrier pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission, nous demander de traiter tel ou tel sujet, nous apporter des compléments d'information ou nous en apporter. Et simplement nous dire coucou, on aime bien recevoir du courrier. Et pour ce faire, vous pouvez le faire à soit par mail, hein, resf.fpp@gmail.com, resf.fpp@gmail.com, ou alors par la poste à émission RESF, radio fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Je répète, hein, émission RESF, radio fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et à l'occasion, vous pouvez aussi nous envoyer un petit ou un gros chèque, ou nous faire un don en ligne depuis la page d'accueil du site www.rfpp.net, hein, parce que, comme vous avez remarqué, cette radio ne fait strictement aucune publicité, et n'en fera d'ailleurs jamais. Donc, si on n'a pas besoin de nos annonceurs, on a besoin de nos auditeurs pour vivre. Et on va commencer cette émission par une très bonne nouvelle, hein, on continuera avec rien que des mauvaises, mais la très bonne nouvelle, c'est Walid, hein, dont on avait parlé la semaine dernière, qui est étudiant en BTS à Saint-Ouen, et donc qui nous avait parlé d'ailleurs en direct depuis le centre de rétention administrative, hein, le CRA de Vincennes, où il était enfermé, a été libéré vendredi dernier par le tribunal administratif. Alors on en reparlera, j'espère, avec lui la semaine prochaine. On va quand même lui laisser le temps de souffler un peu. Voilà. Et puis, on devrait recevoir peu de temps après un appel de Gérard Collot du collectif RESF 94, qui va nous parler donc de quelque chose qui est beaucoup moins drôle, puisque il s'agit d'un jeune dont on avait parlé déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui vient d'être expulsé. Donc c'est Isaac, hein, donc qui a été expulsé par le préfet de l'Essonne. C'était un gamin qui a 19 ans, qui est arrivé en France à l'âge de 4 ans, et qui a été donc expulsé après 90 jours de rétention, malgré la mobilisation de sa famille, de ses amis, de la ville d'Evry, un rassemblement devant la préfecture, à Evry, et plus tout un comité qui était venu l'attendre à l'aéroport. Et puis on écoutera un entretien enregistré la semaine dernière par téléphone depuis Creil avec Florence Esbron, qui est professeure des écoles, militante, chercheuse, écrivaine, poète. Et en écoutant ce que nous dit Florence, on pourra se rappeler que nous sommes le 20 novembre aujourd'hui. Et le 20 novembre, c'est le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors la Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, c'est un traité international. Donc si c'est un traité international, ça veut dire que les signataires sont obligés de l'appliquer. La France a signé l'a signé et s'en fait une fierté. Et ce traité dont les principes essentiels, intérêt supérieur de l'enfant, non-discrimination, droit à la survie et au développement, droit à l'éducation. Donc je dirais juste pratiquement que chacune de nos émissions RESF soulève un ou plusieurs manquements de la France à ses obligations, refus de mise à l'abri, enfermement, refus de scolarisation, arrestation, refoulement illégaux à la frontière, etc. Alors nous continuons à lutter. Et je crois que Gérard Collot, donc du 94, vient de nous retrouver en ligne. Allô Gérard ? Allô ? Bonjour Gérard, oui. Tu nous appelles donc de Créteil ?
Je t'appelle de chez moi, oui. Je ne suis pas à Créteil en ce moment, je suis dans le 94.
Oui.
Pour te parler, si c'est encore à l'ordre du jour, de Isaac Manene,
ouais.
Le jeune Congolais qui a été expulsé dimanche matin.
Oui. Alors on en avait parlé un petit peu et c'est une expulsion enfin, qui est assez stupéfiante.
C'est une expulsion qui est assez stupéfiante. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots de ta part parce que le contexte est celui d'une double peine au départ.
Ouais.
Pour lequel on a été râlé devant les fenêtres de la préfecture du 91.
Ouais.
C'est un petit peu compliqué géographiquement cette affaire. Je ne veux pas vous embrouiller et compliquer les choses pour ceux qui nous écoutent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui étaient mobilisés étaient à la fois dans le 91 du côté d'Evry,
ouais.
Où habite sa famille, et dans le 94 du côté d'Ivry, où la mairie était extrêmement mobilisée sur ce dossier-là. Alors nous, on a des correspondants à Ivry, bien entendu, puisqu'on est dans le 94, et en tant qu'RESF, quand je dis nous, c'est nous en tant qu'RESF, donc on a été alertés. Il y a une dizaine de jours sur son cas,
ouais.
Qui ressemblait étrangement à une double peine, sans trop savoir, puisque
ouais.
C'est quelqu'un qui avait été incarcéré un certain temps,
ouais.
Qui avait purgé complètement sa peine.
Ouais.
À l'issue de sa peine, il était majeur.
Ouais.
Et étant majeur, maintenant, il était en situation irrégulière, puisque en France, quand on est mineur, on ne l'est pas. Que ça ne changera pas tout de suite.
Ouais.
Et c'est une journée importante aujourd'hui pour les droits des enfants, même des enfants étrangers, bien entendu.
Ouais.
Voilà, donc on a vite réagi à ce dossier-là. On a donc très vite appris que Isaac avait fait 90 jours de rétention,
ouais.
Et que le dimanche était son 90e jour.
Ouais.
Et qu'il fallait absolument s'opposer à son départ et à son expulsion. Dans le 91, on a quelqu'un que tu connais bien, qui est Nadia,
ouais.
Qui connaît bien les comportements de la préfecture, et elle nous a dit, avec le peu comme nous, qu'elle connaissait de ce dossier, que de toute façon, le préfet du 91 ne plierait pas à la préfecture. Je ne sais pas si c'est un préfet ou une préfète, mais l'administration ne plierait pas sur ce dossier-là.
Ouais.
Alors on a essayé de la faire plier autrement.
Ouais.
En s'opposant à son embarquement ou à son décollage ou à je ne sais quoi. Donc on est allé se retrouver dimanche matin. Alors l'organisation était pilotée par les gens de la mairie d'Ivry. La famille nous accompagnait complètement. Quand je dis la famille, c'est comme très souvent dans les cas qu'on a à régler, c'est la mère,
ouais.
Pas de père, ou pas de père efficace, ou pas de père connu, ou pas de père présent, enfin peu importe. Je ne connais pas les détails, mais c'est frappant, c'est toujours un petit peu comme ça.
Ouais.
Et puis les frères et sœurs, alors il a un frère qui est parfaitement intégré, qui est voyant, qui fait une carrière à Paris, et qui j'ai un peu discuté à l'aéroport, et qui bien entendu était complètement mobilisé pour la défense de son petit frère. Et puis il y avait dans la famille d'autres jeunes mineurs qui l'ont accompagné à la préfecture,
ouais.
À l'aéroport. Donc le vol Air France, c'est souvent sur Air France, bien entendu, puisque c'est la France qui expulse.
Mmh.
Le vol Air France, d'après les gens qu'on avait rencontrés à l'aéroport, on y est arrivé assez tôt, parce que nos interventions se passent à peu près toujours de la même façon, quand on veut s'opposer à un embarquement qui ressemble plus à une déportation qu'à autre chose, et c'est des mots que je revendique. Puisque j'ai pas encore insisté complètement sur la double peine, mais Il y a des tas d'hommes politiques qui prétendent que la double peine n'existe pas en France. J'ai entendu récemment que le maire, le ministre, voulait faire le rétablissement de la double peine. Donc, non seulement il pense que ça n'existe pas. Ce qui se passe très souvent, et que les gens confondent, c'est qu'il peut y avoir une double condamnation. On peut, par exemple, être condamné à une amende et à une incarcération, donc pourquoi pas, à condition que ce soit dans le même jugement. Parce qu'on ne peut pas rejuger une chose qui a déjà été jugée et pour laquelle la peine a été exécutée. Enfin, théoriquement, puisqu'en réalité, lui, après avoir été jugé pour cette chose-là, le préfet, finalement, a décidé qu'on le mettait dehors, bien qu'il ait un temps de présence considérable en France. Il est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Il ne connaît plus personne, il est originaire de Kinshasa, mais il ne connaît plus personne à Kinshasa. Pour organiser son éventuel accueil quand il s'agissait de parer la solution la plus épouvantable qu'on imaginait, c'était qu'il soit effectivement déporté. Pour parer à ce truc-là, on avait été obligé de demander à sa mère d'appeler des gens qu'elle connaissait, puisqu'il n'y a plus de famille connue, de famille directe là-bas. Donc, voilà. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si on a encore un petit peu de temps. Je veux revenir sur l'organisation qu'on a faite à Charles de Gaulle dimanche matin. On s'est retrouvé à 50 à peu près là-bas.
C'est
un petit peu compliqué d'organiser le but du jeu, c'est d'intervenir auprès des passagers pour qu'ils se manifestent une fois l'embarquement fait en disant qu'ils ne veulent pas embarquer avec quelqu'un de menotté, attaché, fixé à son siège, etc. Puisque, ayant refusé une première fois un embarquement quand il était en rétention, il subit des conditions d'embarquement beaucoup plus épouvantables quand on tente de l'évacuer une deuxième fois. Donc là, je ne connais pas le contexte puisqu'on ne l'a pas vu. Il ne passe pas par le même circuit que les passagers normaux, bien évidemment. Mais voilà. Donc normalement, les passagers s'aperçoivent tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Donc il y a des réactions spontanées. Et là, nous, à 50, on s'est posté aux différents endroits parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait s'enregistrer à plusieurs endroits. Et puis même peut-être entre le terminal 2E et le terminal 2F, il y avait une ambiguïté. Je crois qu'on pouvait accéder à la même plateforme d'embarquement définitif. Donc on n'a pas pu avoir tout le monde. Et puis une fois que les gens sont passés à l'enregistrement, ils sont pressés d'aller en zone libre, enfin en zone hors douane. Donc ils vont tout de suite faire leurs formalités. Donc il faut vraiment ne pas les indisposer parce qu'ils pourraient se retrouver autrement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à contacter une trentaine de personnes qui étaient assez favorables à ce truc-là et qui nous ont dit que de toute façon elles réagiraient de mon point de vue. Et puis parmi elles, il y avait quelqu'un qui prétendait être une personne importante au plan politique congolais. Donc était particulièrement motivé pour ce truc-là. Alors, ce qui s'est passé après, nous, on se contentait de regarder si l'embarquement se faisait normalement. À un moment donné, on a vu sur les pancartes que l'embarquement était terminé. Donc là, on n'était pas très très fiers. La maman d'Isaac s'est un petit peu effondrée à ce moment-là. Était complètement cajolé par ses amis, ses enfants, les gens qui l'ont beaucoup suivi. C'est-à-dire que la mairie d'Ivry, s'est extrêmement mobilisée sur ce dossier-là. Il était très très près d'une insertion après ces mois d'enfermement. Donc il y avait aussi des gens qui connaissaient très bien et qui sont intervenus à ce moment-là pour mettre des sourires sur les visages, quoi. Alors, finalement, on a vu que l'avion quittait son embarquement et puis il prenait du retard, il ne décollait pas tout de suite. Alors, il y a un moment d'espoir qui est venu, on s'est dit, le pilote a peut-être décidé qu'il débarquait la personne. Ça ne se passe pas au même endroit qu'à l'endroit où ils embarquent. Voilà, puis on a vu que l'avion était parti. On a réussi plusieurs reprises avoir un contact téléphonique avec lui jusqu'à ce que les policiers qui l'encadrent lui piquent son téléphone et là le contact était interrompu. Et donc on a su que de toute façon, il ne pouvait pas faire plus que ça. Mais on n'a pas bien su quel était le comportement des passagers à l'intérieur. Ouais. Et puis on essaie d'avoir des informations, mais c'est un petit peu délicat. J'ai eu une information cet après-midi en préparant cet entretien.
Ouais.
C'est que quand il est arrivé à Kinshasa, normalement c'est réputé pour les expulsions depuis un pays européen, pour que c'est directement la case prison là-bas.
Okay.
Mais Kinshasa, c'est Kinshasa, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se négocier.
Mmh.
C'est une ville que je connais en plus, et je sais comment on peut faire. Moi, je suis rentré sans visa à plusieurs reprises, simplement en glissant un billet, en mettant un temps sur un document, parce que j'avais été obligé de partir en urgence, etc.
Mmh.
Enfin, c'est pas pareil, parce que c'est pas tout à fait de la même couleur, et ça a son importance. Lui, quand il est arrivé, on avait réussi à mobiliser quelqu'un qui était censé être un oncle.
Mmh.
Là aussi, c'est un oncle soit très éloigné, soit à la mode de là-bas. On n'est pas sûr que ce soit un oncle, le père de son frère de son père ou frère de sa mère, et qui n'était pas connu, qu'évidemment lui ne connaissait pas, et l'oncle ne le connaissait pas non plus. Donc ils se sont retrouvés avec des petits bouts de papier qui s'affichaient, là. Et il a évité la case prison. Donc pour l'instant, il a l'air, d'après ce que j'ai compris, d'habiter à Kinshasa ou en banlieue de Kinshasa. Finalement, après ses mois de prison et ses 90 jours de rétention, il dit que finalement, il est en bonne santé, qu'il va bien, qu'il y a des situations pires que la sienne et que là, il éprouve un petit sentiment de liberté à pouvoir marcher sur les trottoirs, faire des choses toutes simples. C'est, malheureusement, c'est un raté pour les gens qui sont mobilisés pour le parti. On va avoir, je pense, un contact téléphonique du genre conférence, parce qu'il veut absolument remercier les gens qui sont mobilisés pour lui. De la même façon, son frère a fait un petit discours quand on a compris à Charles de Gaulle là, qu'il n'y avait plus aucun espoir de le voir débarquer. Son frère a fait un discours à tous les gens qui étaient là, qui étaient extrêmement dignes, et chaleureux et sympathiques.
Okay.
Voilà. Donc, j'ai sûrement parlé beaucoup trop longtemps par rapport à ce que tu avais prévu.
Oui, mais.
Pour RESF, puisque après tout, c'est Radio RESF, notre petit créneau, on n'était pas très très nombreux dimanche, parce que l'information a peut-être mal circulé sur les réseaux. Moi, j'étais avec Catherine. On a rencontré Anne-Marie, que tu connais, là, du CIVCR, de Vitry, qui est aussi à RESF. Et puis voilà, il y avait d'autres têtes que je ne connaissais pas, donc qui étaient peut-être des collectifs de villes de banlieue, soit du 91, soit du 94, et je ne connais pas tout le monde.
Ok.
Voilà, Yves, à peu près ce que je peux dire sur ce dossier.
Voilà. Merci beaucoup, Gérard. Et puis, si dès qu'il y a des nouvelles, dès qu'il y a des nouvelles du jeune,
prochainement, il va y avoir un compte-rendu qui sera diffusé, qui est fait par des gens qui connaissent bien une fois qu'on aura eu vraiment un contact avec lui et qu'on saura quoi dire sur son séjour là-bas, ce qu'il faut dire aussi, c'est que non seulement c'est la double peine, c'est-à-dire c'est de l'OQTF après la case prison, mais il a eu aussi OQTF plus IRTF, interdiction de retour sur le territoire français.
Ouais, donc ça va être compliqué.
On peut difficilement faire des choses pour lui à court terme. Hein. Je crois que l'IRTF est assez long en plus. Ça n'est pas les détails du dossier. Donc je ne veux pas dire des choses qui seraient peut-être fausses, mais c'est une double peine, en quelque sorte.
Voilà. Merci beaucoup, Gérard. Et puis, donc, dès qu'il y a du nouveau, on refait une émission.
On en reparle.
Une émission spéciale et on en reparle.
Et merci pour faire tout ça sur cette radio.
Okay.
À bientôt.
Et merci. Au revoir. À très bientôt.
Au revoir.
Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute du RESF, un réseau d'éducation sans frontières sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et donc, on va tout de suite écouter donc Florence Cesbron, qu'on a joint la semaine dernière, mercredi dernier, donc par téléphone depuis Creil, et qui va nous parler d'une très belle mobilisation qui a eu lieu dans son école, plus d'autres mobilisations. Donc on va l'écouter tout de suite, et ça résonne parfaitement avec la commémoration de la journée internationale, enfin de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui fête son 30e anniversaire aujourd'hui. Donc tout de suite, Florence Cesbron, donc depuis Creil. Bonjour Florence, hein, donc
bonjour.
Tu nous appelles de Creil dans l'Oise. Et ben, je crois que tu as beaucoup de choses à nous raconter, notamment auprès des jeunes qui sont à la rue et des familles aussi qui sont à la rue.
Ben, en fait, je vais vous raconter une anecdote. C'est pas une anecdote, c'est une lutte actuelle, mais qui part d'un fait précis, dans une école précise, avec une famille précise. Et puis, on va partir de ça pour discuter un petit peu d'un contexte plus général. Donc c'est à la fin du mois de septembre, quand une enseignante de CP de l'école Gérard de Nerval à Creil fait sa réunion de rentrée, quelque chose que tous les gens qui ont des enfants connaissent, une réunion un peu institutionnelle, mais où les enseignants présentent leur classe, vont à la rencontre des parents. Eh bien, à l'occasion de cette réunion, à la fin de la réunion, il y a une maman qui craque et qui signale sa situation à l'enseignante, une situation qu'elle aurait peut-être voulu garder pour elle, mais là, c'est trop, elle en parle à l'enseignante de son fils qui est en CP. Et donc, elle lui dit, avec les mots qu'elle peut trouver... parce qu'elle parle pas encore le français couramment, elle lui explique que elle a reçu une obligation de quitter le territoire français et donc que dans 3-4 jours elle devra même quitter son logement. Et donc elle fond en larmes parce que elle sait pas du tout ce qui va lui arriver et puis ce qui va arriver à ses enfants. Et à cette occasion, du coup, l'enseignante qui n'était pas aguerrie à ce genre de situation, bien alerte le directeur et l'ensemble des collègues pour savoir ce qu'on peut faire. Donc, à ce moment-là, on se souvient tous que 20 jours plus tôt ou une quinzaine de jours plus tôt, il est arrivé la même chose dans une autre école du quartier, et que les enseignants se sont tout de suite mobilisés en demandant à la préfecture et à l'éducation nationale de revoir leurs copies pour permettre à leurs deux élèves de rester à l'école. Et n'ayant pas de réponse, les enseignants de cette autre école ont décidé, comme un seul homme, de rester dormir dans leur école au bout de très peu de temps d'absence de réponse des institutions. Et ils ont dormi avec la famille dans leur école et le problème a été réglé. Après, on rentrera dans les détails sur la façon dont il a été réglé, mais en tout cas, la famille de cette autre école a eu un logement pour toute la durée de l'année scolaire dans une autre ville, mais au moins, était hébergée. Et du coup... c'est ce qui s'est passé dans notre école, voyant cette victoire voisine, on s'est dit que nous devions nous aussi nous mobiliser et c'est ce que nous avons fait puisque nous n'avions pas non plus de réponse positive vis-à-vis de cette famille et donc nous sommes relayés pour dormir avec nos deux élèves et leurs parents dans l'école. Et ce, pendant 27 jours.
Ouais.
Voilà, donc je peux continuer dans les détails, mais voilà en gros le tableau dressé.
Ouais.
Et je ne sais pas si tu as des questions oui. à ce moment-là, mais sinon je continue.
Bah, j'en ai plein. D'une part, d'abord, c'est cette famille, au bout de 27 jours, elle a trouvé un logement.
Alors voilà, donc ce qui fait que nous avons arrêté... C'est que, en même temps que nous dormions avec la famille à l'école pour symboliser notre soutien, ouais. Nous allions tous les soirs avec cette même famille à la tournée du SAMU social dans notre ville, donc on appelle nous la Maraude, et pour qu'ils puissent se signaler au SAMU social tous les soirs et avoir un logement d'urgence au moins, et puis que petit à petit les choses soient prises en considération par le 115, qui est donc l'organisme qui est missionné par l'État, qui est un organisme associatif, mais qui est missionné par l'État, pour héberger en urgence tous les gens qui sont sans abri. Et ce 115 peut parfois débloquer des logements, non pas pour une nuit, mais pour une période de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'était notre stratégie, c'était qu'ils se signalent tous les soirs. Et ouais, très rapidement, il leur a été proposé que la maman et les deux enfants soient hébergés un soir,
ouais,
mais pas le papa, parce qu'en fait, dans notre département, il n'y a pas assez de places ouvertes mises à disposition. Donc, c'est vraiment que les cas d'extrême urgence qui sont traités, qui sont considérés. Et donc, les cas d'extrême urgence dans toutes les semaines là que nous venons de vivre, ce sont des mamans avec de très, très jeunes enfants ou des femmes enceintes sur le point d'accoucher, pas forcément celles qui sont au début de leur grossesse, ou des gens très, très malades. Et donc, cette maman, très rapidement, c'est ce qui lui a été proposé. Mais comme nous étions solidaires et qu'il y avait une place au chaud dans notre école, nous en informions le 115 en disant que cette maman qui, par ailleurs, était souffrante, ne pouvait pas être toute seule avec ses enfants, séparée de son conjoint, et qu'ils étaient bien mieux à l'abri chez nous, mais qu'on reviendrait le lendemain jusqu'à ce que un logement plus pérenne leur soit proposé. Et c'est ce qui a été le cas au bout de 27 jours. Et le logement qui leur a été proposé est loin de l'école des enfants, puisque c'est à Beauvais alors que l'école est à Creil. Donc c'est à 35 km de leur école.
Mmh.
Et mais bon, évidemment, il fallait accepter, et c'est très très bien. Enfin, l'endroit n'est pas très très bien, mais la famille était très très heureuse de retrouver son autonomie. Et donc ça, c'était très important. Et donc voilà, c'est ce qui a fait la première étape de cette la première victoire, on va dire, de cette action de solidarité. Mais cette famille donc se retrouve dans ce logement d'urgence et pour jusqu'au 31 mars. Mais ne peut pas être scolarisé à Beauvais simplement puisque c'est pas une adresse qu'accepte de reconnaître la préfecture. La préfecture dit juste bon bah voilà, cette famille elle est logée en urgence, mais n'empêche qu'elle a une OQTF, donc on ne veut plus en entendre parler. Donc pour l'instant cette famille n'a aucun droit.
Ouais.
Voilà. Donc, elle a décidé de revenir tous les jours à l'école. Donc, les jours d'école, c'est 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ouais.
Donc, chaque jour, toute la famille vient. Les deux enfants vont à l'école. Ils restent déjeuner à l'école. Et pendant ce temps-là, les deux parents font ce qu'ils avaient commencé à faire pendant qu'ils étaient demandeurs d'asile, à savoir, ils vont dans une association pour apprendre le français, ils vont au Secours Populaire pour aider le Secours Populaire et qui en retour les aide par une aide matérielle. Et puis voilà, font différentes choses comme ça qui leur permettent d'être dans la société.
Ouais.
Voilà, donc on en est là et en même temps on est toujours relié à eux pour que eh bien y ait des demandes encore de soutien à travers, par exemple, un soutien social. Quand il y a une assistante sociale qui est missionnée, ça permet de redéclencher les rapports avec l'administration. Pour l'instant, c'est pas encore le cas.
Ouais.
Et puis après, ce sera le système D, on va le dire comme ça.
Mmh.
Jusqu'à ce que, ça je peux le dire aux auditeurs, je pense que ça c'est une des choses que moi je souhaite faire connaître à l'ensemble des gens qui un jour entendent parler des populations clandestines en France, c'est que les populations clandestines, je fais partie de ceux qui les appellent les populations clandestinisées par l'État français, parce que pour un grand nombre d'entre elles, leur nécessité de vivre en France et pas ailleurs fait qu'elles se débrouillent pour trouver du travail et un logement. Et c'est possible de trouver du travail et un logement parce que finalement, une partie de la société française s'accommode volontiers de la situation très précaire faite à ces populations pour qu'elles acceptent des emplois très très mal payés et tout ça. Et donc, on sait qu'une partie de la population qui vit en France vit avec acharnement pour vivre dignement et donc avoir un travail, un logement et que c'est possible, mais dans des conditions de déni de droit.
Mmh.
Voilà, et donc c'est ce qui arrivera probablement à cette famille si aucune procédure administrative n'est réouverte. Et puis, ce qui arrivera à cette famille, comme à de nombreuses familles, et tant mieux au bout du compte, mais c'est tragique le temps de la précarité, et c'est tragique et puis c'est organisé, je pense. C'est que si cette famille réussit à trouver un logement et un emploi pour vivre,
ouais.
Eh bien, au bout de 3 ans, on commencera à réétudier le dossier, à réouvrir le dossier, et voilà. Et donc, voilà.
Ouais. Et la question que j'allais te poser maintenant, parce que le logement, c'est une chose, et la régularisation de la situation en est une autre.
Ah oui, tout à fait. En fait, nous, notre action de solidarité, elle porte sur les deux aspects.
Ouais.
D'un côté, l'aspect administratif, la régularisation, qui va être sûrement une procédure très 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 longue.
Ouais.
Mais d'un autre côté, la solidarité matérielle, c'est-à-dire leur permettre, on fonctionne sur la base de soutien matériel,
mmh.
en habits, en nourriture et tout ça, mais aussi en argent, pour que cette famille elle puisse circuler librement.
Ouais.
Et nous leur souhaitons vraiment, et nous avons pleinement conscience de cette situation de notre société, nous leur souhaitons vraiment de trouver un logement et un travail, et on sait très bien que ça se fera dans la clandestinité.
Ouais. Et donc les actions pour leur régularisation, donc là, je suppose que l'OQTF est contesté, à moins que vous en ayez connaissance un petit peu tard pour le faire.
Alors, on est en contact régulier avec la préfecture et avec les organismes sociaux pour trouver une issue. Et pour l'instant, la préfecture ne veut pas en entendre parler. Et voilà. Donc là, il n'y a rien de réouvert. Mais on cherche.
Ouais.
Mercredi 20 novembre,
ouais.
Il y aura un grand rendez-vous citoyen avec une audience à la préfecture. Premièrement pour exiger que des logements d'urgence soient mis à disposition de toute la population sans logement toutes les nuits où on est en maraude sur Creil, Beauvais, Compiègne essentiellement. Mmh. Et donc ça, c'est la première page du dossier de négociation ou en tout cas de rencontre avec la préfecture. Et puis l'autre, c'est de voir ce vers quoi on peut être dirigé pour réouvrir des dossiers de demande d'asile ou en tout cas de remise en cause de l'OQTF.
Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a des actions auxquelles on peut s'associer aussi depuis Paris et puis depuis toute la France, comme une pétition, comme...
Alors, pour l'instant, je vais réfléchir en même temps que je parle. Mais disons que pour l'instant, ce qui est très intéressant, c'est que déjà dans notre département, dans l'Oise, cette lutte, donc qui a commencé très localement sur Creil, a permis à toutes les actions de solidarité du type droit au logement, soutien des populations les plus précarisées et des populations victimes d'OQTS, de se réunir et justement de préparer cette grande journée du 20 novembre qui est la journée internationale des droits de l'enfant, mais qui là, dans l'Oise, sera consacrée à ça. Et voilà, donc déjà, ce qui est très très intéressant, c'est que sur la base d'une action qui part d'un événement très précis et qui s'adresse à une famille en particulier, en fait, ça fédérait toutes les actions qui existaient dernièrement autour des populations mises en grande précarité ou en clandestinité.
Okay.
Voilà. Et donc pour pour dépasser l'Oise, on va dire, déjà cette émission, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de faire connaître une action qui actuellement est très très positive sur le plan de la citoyenneté et des revendications, quoi. Donc ça, déjà, c'est super important de faire savoir que il s'est passé cette action, qu'elle a été un déclencheur de quelque chose qui est en train de se construire et de se déployer, et donc que d'autres pourraient bien en faire autant, à savoir une occupation d'école, c'est symboliquement c'est hyper important, avec l'idée que en fait dans notre école c'était pas une école de militants RSF. Il n'y a personne qui était à RESF dans notre école. Et pourtant, il y avait des militants très proches des RESF, en tout cas de personnes très sensibilisées à cette question. Et sûrement qu'elles ont été des piliers nécessaires. Mais sinon, c'était des enseignants... Qui ne consacrent pas leur vie à ça d'habitude et qui là, vraiment de façon très très simple, ont choisi d'y aller directement, pleinement et de s'organiser entre eux et ça a créé du coup cette action d'urgence solidaire, ça a créé une solidarité qui dépasse largement la situation de cette famille. C'est une solidarité entre des professionnels, c'est une solidarité entre des professionnels et l'ensemble des usagers, à savoir les familles du quartier. C'est des questions super intéressantes qui se sont posées, des révélations qui ont eu lieu sur qui sont les enfants à qui on enseigne tous les jours. Parce qu'en fait, cette question de la clandestinité d'une partie conséquente des familles de notre école, bah, elle s'était jamais posée comme elle s'est posée pendant ces semaines de solidarité. Donc ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que il y a eu une action de prise de conscience qui a eu lieu, quoi.
Oui, bah c'est tout à fait finalement le fonctionnement du réseau. C'est-à-dire qu'on a finalement des gens qui vont se mobiliser face à une situation sociale qui sont pas des gens ou qui sont des gens qui ont l'habitude de se mobiliser pour d'autres raisons ou pour ces raisons-là. Et tout d'un coup, on va se mobiliser autour d'une situation et ouais. Cette situation va révéler d'autres situations.
Exactement. Ouais, c'est ça. Et alors, en plus, voilà, RESF, vous connaissez ça très bien aussi, mais je le redis là à cette occasion, c'est que la question de la clandestinité, quand on est enseignant et voilà, donc qu'on exerce auprès d'un jeune public qui est amené à devenir citoyen de France. Il y a quelque chose de vital à agir pour que ces enfants restent dans nos écoles, à savoir que on n'imagine pas que l'intégration à la société française puisse se faire autrement que dans ce premier accueil qui est celui de l'école. Donc cette famille, elle décide qu'elle veut vivre en France, eh bien, nous devons nous donner les moyens que cet accueil en France, il se fasse de la meilleure des façons, et parce que qu'il y ait une adhésion, quelque chose qui résonne entre la famille et l'école très très simplement, parce que voilà, et là en l'occurrence il se trouve que ces deux enfants ont appris le français très très vite, comme beaucoup d'enfants, tu le sais, et donc pourquoi gâcher cet élan, pourquoi voilà, et c'est pour ça que je parle de population clandestinisée, parce qu'en fait à chaque fois, on se rend compte que la détermination, elle était tellement forte à venir en France que elle est toujours là et qu'en fait, elle est empêchée de se faire très simplement par le biais de l'école, par le biais du travail, par le biais du logement auprès d'autres gens. Voilà. Donc, voilà, ça nous a tous paru nécessaire simple dans notre esprit de créer les conditions favorables pour que ces enfants ils s'installent tranquillement dans ce pays qui doit devenir le leur, quoi.
Absolument. Et je crois que tu participes aussi à des maraudes et que donc cette famille, tu le disais, hein, n'est pas la seule, mais un problème qui est dans l'Oise comme dans pratiquement tous les départements en France, qui est un gros, 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 gros problème et qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la rue qui cumulent le problème d'être à la rue et de ne pas avoir de papier.
Exactement. Donc, c'est par ce biais-là que nous sommes venus au Maraude tous les soirs. Et donc, les gens qui viennent au SAMU social sont des gens qui, donc, ne vont pas avoir de logement dans la nuit qui arrive et qui viennent demander de l'aide au SAMU social. Et il se trouve que il y a une grande partie d'entre eux qui sont des gens qui viennent de recevoir une OQTF. Et donc, ils sont sortis du logement qui leur était offert, en tout cas, qui leur était donné le temps de l'étude du dossier de la demande d'asile. Et une fois que la demande d'asile est refusée, que la famille a fait appel et que cet appel est à nouveau refusé, on dit qu'ils sont déboutés du droit d'asile, eh bien, ils doivent immédiatement quitter le logement. Et donc, c'est ces gens-là qu'on retrouve en détresse le soir. Et là, ce soir, par exemple, il y avait 15 adultes, ouais. Il y avait 7 femmes et 8 hommes.
Ouais.
Et la plupart d'entre eux étaient des gens voilà, déboutés du droit d'asile. Et il y avait un enfant ce soir. Il est arrivé certains soirs, il y a eu jusqu'à 6 ou 7 enfants, je crois, à Creil.
Ouais.
En tout cas, à Beauvais, c'est encore plus, parfois une quinzaine d'enfants.
Ouais.
Et la plupart du temps, le SAMU social ne peut pas n'a pas suffisamment de place pour accueillir ces gens parce que la préfecture ne donne pas son aval pour ouvrir les places nécessaires à l'accueil de tous ces gens.
Ouais.
Voilà. Donc, nous, depuis que nous y sommes là, dans le cadre de ce combat, il y a eu des familles qui ont été accueillies du coup par des militants, des bénévoles, des gens qui viennent le soir comme ça et donc qui ont pu les accueillir une nuit, deux nuits, un peu plus, voilà. Il y a une maman avec ses deux enfants et cette maman est enceinte et le papa n'a pas pu arriver en France. Elle est seule et elle n'avait même pas pu déposer sa demande pour de droit d'asile,
ouais.
Sa demande d'asile. Et elle errait et elle ne pouvait pas déposer sa demande. Et en fait, c'est une personne d'une des associations d'accueil aux sans-papiers et qui s'est mobilisée avec elle plusieurs semaines de suite. Et là, il y a une semaine, elle a pu déposer son dossier et elle est intégrée dans un CADA,
ouais.
Un peu loin de chez nous, mais voilà. Et donc, voilà, au quotidien, il y a des choses qui se font pour aider pour une nuit, pour plus, et pour que des dossiers soient déposés là où ils peuvent l'être, des reconnaissances soient faites, des gens qu'on aide à aller à l'hôpital parce que en fait... ils ont carrément besoin d'être soignés. Voilà.
Et tu as écrit aussi une très jolie chanson qui s'appelle « Les papiers d'Arménie ».
Alors, c'est moi qui l'ai écrite.
Ouais.
Voilà. Donc, un certain nombre de mes poèmes sont mis en musique par un groupe auquel j'appartiens, puisqu'il prend mes textes pour en faire des musiques, c'est le groupe D'autres Lignes. Et ce texte a été écrit dans le cadre de cette lutte, de ouais. cette action. Et il parle complètement de cette action. Et le 10 octobre, nous avions fait une réunion publique à laquelle ont assisté à peu près 100 personnes, ouais, peut-être une centaine de personnes,
ouais.
Et où il a été décidé de la suite des actions à mener, et notamment d'aller vers le 20 novembre pour exiger l'ouverture des logements d'urgence. Et ce jour-là, il y a eu une manifestation dans les rues de Creil, et à la fin de la manifestation, à la sono, on a mis cette chanson qui venait juste de naître,
ouais.
Et les manifestants s'en sont emparés et c'était un beau moment d'émotion. Voilà, donc du coup, on a décidé de la travailler et de la travailler encore. Et le 20 novembre, elle sera présente à nouveau sur la manifestation, cette chanson.
Voilà, et puis comme ce qu'on enregistre aujourd'hui sera en fait diffusé le 20 novembre, et bien ça sera une occasion de l'écouter tout de suite.
Allons-y.
Voilà, merci beaucoup Florence. Et puis on va se quitter donc en écoutant les papiers d'Arménie.
Super.
Bien, au revoir, merci beaucoup. Et puis n'hésite pas à nous rappeler s'il y a des choses à dire du nouveau ou des choses à dire sur ce qui se passe à Creil et dans l'Oise.
Ok, à très bientôt et puis bon courage et bonne lutte à tous ceux qui soutiennent les enfants issus du monde entier qui arrivent en France. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Les papiers d'Arménie ou les papiers d'ici, parfums indésirables s'envolent en fumée. Les papiers d'Arménie ou les papiers d'ici, en sourires allumés, nourrissent à nouveau les solidarités. Nicolas et Mardavé, un soir s'est délogé, attire nos attentions et nos humanités. Il jouait dans la cour sans se faire remarquer. Il jouait dans la cour, parlait déjà français. Nicolas et Mardavé habitaient le quartier où l'on roule l'anglais d'un bel accent indien. Le turc et le pachtou, les verbes chuchotés. Un quartier terre d'accueil pourtant si mal mené. Nicolas et Mardavé connaissent les voyages. Ils sont nés sur la terre qui tourne à l'infini. Ils sont nés au village où respirer pollue les envies d'avenir, les simples rêves tissés. D'Arménie ou les papiers d'ici, parfums indésirables s'envolent en fumée. Les papiers d'Arménie ou les papiers d'ici, en sourires allumés, nourrissent à nouveau les solidarités. Leurs premiers pas joyeux ont franchi les frontières, comme on franchit le seuil d'une maison d'amour. La main bien accrochée à celle des parents, maison si rassurante qui permet d'avancer. Sur la terre si ronde dont le tour infini autorise à rêver, à croire tous les possibles, alors comment rester? Du village il faut fuir, agrandir l'horizon, redonner vie aux veines. Sur la terre si ronde dont le tour infini autorise à rêver qu'on peut devenir grand. Les frontières s'installent, les murs si protecteurs se hissent en sanctuaire d'exclusions inhumaines. Leurs silhouettes se fondent aux dédales qui se perdent. Autour de leur détresse se dressent nos actions, afin que nos regards aujourd'hui ne se fanent. Chacun de nous ne peut se résoudre à l'oubli. Il a besoin d'encore garder les yeux ouverts, un besoin d'exprimer que c'est encore possible d'avancer sur cette terre par-delà les frontières.
Alors vous êtes toujours à l'écoute du RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site du RESF, un réseau Éducation Sans Frontières, à la rubrique radio, hein, resf.info/radio. Et donc on vient d'écouter Florence Cesbron, hein, enregistrée donc mercredi dernier à Creil, et avec la chanson dont elle est l'auteur aussi, et qui fera sans doute l'objet d'un album, enfin qui sera dans un album à sortir incessamment sous peu, et bien sûr on vous préviendra. Et on va tout de suite maintenant passer à notre agenda avant que les oreilles du front arrivent. Donc et bien notre agenda il commence déjà demain vendredi 22 novembre. Donc à 9h, il y aura une audience à la cour administrative d'appel. Donc c'est 68 rue François Miron, au métro Saint-Paul ou Pont-Marie. Et c'est toujours important d'aller aux audiences, hein. Donc soit au tribunal administratif, soit à la cour administrative d'appel, parce que d'une part, ça permet peut-être de changer le cours des choses, et aussi on découvre des choses tout à fait intéressantes. Et puis tous les jours. Donc on pourra aussi se rendre tous les jours, quelle que soit l'heure. Soutenir les camarades de l'agence Chronopost d'Alfortville, hein, qui continuent à se mobiliser, des soutiens passent, s'organisent. L'adresse est Chronopost Alfortville, hein, 2 chemin Villeneuve-Saint-Georges à Alfortville dans le 94, et on peut y passer. Et puis, donc notre agenda donc la plutôt culturelle, ce soir mercredi à 19h30 pile, donc dans un peu plus d'une demi-heure, c'est le concert des jeunes de la SMI qu'on a eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises ici. Donc c'est à l'espace GMAPS, 116 quai de GMAPS dans le 10e au métro République. Et puis jeudi, donc demain, jeudi 21, à 19h, il y aura une projection débat, l'Europe au pied du mur. Hein, c'est un documentaire d'Elsa Putella et de Nicolas Dupuis de 2018 dans le cadre du festival Migrant Scène. Et c'est au grand voisin, en l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, au métro d'Enfer Rochereau. Vendredi 22, donc après-demain, à 18h, eh bien, le groupe local de la CIMAD à Montreuil organise avec la Maison Ouverte de Montreuil une soirée de mobilisation, rencontres, expo, concerts. La Maison Ouverte, c'est 17 rue Hoche, au métro Mairie de Montreuil. Et puis, donc là, ça pourrait être aussi très, 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 très intéressant. Vendredi, donc toujours après-demain, à 19h30, à l'auditorium du Conservatoire de Gentilly. Hein, l'auditorium du Conservatoire, c'est 2 rue Jules Ferry à Gentilly. Et c'est dans le cadre du Festival des Solidarités, une soirée qui s'appelle Migration, Accueil, Richesse, Réalité. Et donc, ça commencera par une pièce de théâtre, hein, avec Traversée. C'est un texte et une mise en scène de Dany Toubiana. Donc Traversée est née de récits recueillis par la compagnie La Feuille d'Or auprès de gentiléens et de gentiléennes entre 2015 et 2017. Cette pièce de théâtre sera suivie d'un débat et surtout d'une conférence débat, la loi Colomb et les privations de liberté de l'étranger, proposée par le collectif de soutien aux personnes en situation irrégulière de Gentilly, et en présence de Louise Lecaudet, qui est déjà intervenue plusieurs fois dans cette émission, de la CIMAD, qui est accompagnatrice juridique au CRA du Ménil-Amelot, et de Barbara Alix de l'ANAFE. Pour y aller, donc RER Gentilly, sorti en queue de train, puis bus 125 Raspail-Jaurès. Et dimanche, conférence débat sur les états généraux de la migration prévus au Mali à Caille en décembre. Et le festival, la campagne Sauvons la Faire Aimer, états généraux des migrations, dans le cadre du Festival des Solidarités au CICP 21 bis rue Voltaire. Voilà, notre émission est à présent terminée. Merci Leïla à la technique, et je vois que les oreilles loin du front s'installent dans le studio. Donc je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission singulier au pluriel. Au revoir.
OQTF, obligation à quitter le territoire français. attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.